Vous écoutez France Culture.
France Culture, l'invité des matins.
Et l'invité des matins aujourd'hui, Gaël Giraud, économiste jésuite, spécialiste des questions bancaires, directeur de recherche au CNRS. Avec vous, Gaël Giraud, nous allons continuer à discuter de l'union bancaire. Vous avez publié il y a quelques mois de cela et ce sera réédité en version augmentée bientôt, version poche illusion financière aux éditions de l'Atelier. C'est un livre qui vous a valu de recevoir le prix lycéen du livre Lire l'économie, prix décerné par 3000 lycéens répartis dans 150 classes. Et avant de poursuivre notre discussion, j'aimerais vous faire écouter le témoignage d'une des lycéennes qui a été amenée justement à vous décerner ce prix. Elle est élève de terminale ES au lycée Condorcet de la Varenne Saint-Hilaire et elle explique pourquoi elle a choisi votre livre et ce qu'elle en a retenu.
J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques, mais c'était tous très bien expliqués. Puis ça peut nous aider à nous enrichir et à, même dans nos exemples qu'on peut donner dans nos dissertations, pour le bac notamment. Maintenant, quand je regarde des émissions qui en parlent ou que j'entends les économistes, je comprends mieux et ça m'intéresse.
La crise, en fait, c'est un choc exogène. En fait, c'est venu des États-Unis. Le problème, c'est que les États, ils n'ont pas très bien réagi. C'est par rapport aux banques. Ils ont essayé de sauver les banques, mais ça n'a pas permis d'aider les pays de sortir de la crise. Et ce qui est bien, c'est que Gaël Giraud, il propose une transition écologique pour s'en sortir. C'est l'idée qu'en fait, pour sortir de la crise, il va falloir que les États mettent l'écologie en priorité. Enfin, l'idée de mettre le progrès technique au service de l'écologie plutôt qu'au sauvetage des banques et à l'innovation, pour s'en sortir toujours d'un point de vue économique, ça, c'est plus intéressant. Que justement, c'est bien aussi d'aborder un peu la crise de manière philosophique. Je sais qu'à un moment, il parle de Hannah Arendt. Et c'est bien aussi, enfin, surtout pour nous, moi j'ai trouvé ça intéressant de sortir d'un cadre seulement économique et social et de voir la crise d'un autre angle.
Bon, Gaël Giraud, est-ce que cette lycéenne interrogée par Claire Duisabeau a bien lu votre livre et l'a bien résumé?
Mais je crois qu'elle a tout compris. C'est ça qui est magnifique. C'est que... Donc elle dit très clairement à la fois le livre propose un diagnostic sur la crise des subprimes, le lien entre cette crise financière et la crise des dettes publiques aujourd'hui, le lien entre celle-ci et la crise de l'euro et la transition écologique comme voie de sortie par le haut de toutes ces impasses cumulées.
On pourrait peut-être lui proposer de rédiger la quatrième de couverture de la version en poche de votre livre.
Voilà, ou la quatrième édition quand elle viendra.
C'était important pour vous, en tout cas, de pouvoir être lu par ce type de public. J'imagine que c'est pas, lorsque vous avez écrit Illusion financière, c'est pas forcément en pensant aux lycéens que vous l'avez écrit, mais l'idée, en tout cas, d'être le plus accessible possible.
Oui, je crois que ça fait partie du travail aujourd'hui d'un chercheur en économie que de parler au corps social. Je pense que c'est une grande difficulté aujourd'hui dans le débat public qui est qu'un certain nombre d'experts se contentent de parler simplement au prince, alors que nous devrions aussi, à mon avis, même si c'est très onéreux en temps et en énergie, alimenter le débat public avec les citoyens qui sont partie prenante des décisions que nous avons à prendre. Et parmi ces citoyens, les lycéens, c'est aussi l'avenir de notre pays, donc ça me paraît fondamental.
Voilà, les lycéens qui ne lisent pas seulement Alternatives économiques, n'est-ce pas Thierry Pêche? Ils le lisent beaucoup, mais également donc des ouvrages tels que le vôtre, Gaël Giraud. Alors on va repartir sur la discussion que nous avions laissée légèrement en suspens tout à l'heure à propos de l'union bancaire, dont vous nous avez dit tous les défauts qu'elle comportait, Gaël Giraud. Un projet d'union bancaire, c'est censé être efficace dans les outils qu'il propose, mais c'est aussi censé avoir un effet presque performatif directement, c'est-à-dire on essaie de rassurer les contribuables, mais aussi rassurer les marchés financiers. Si ces deux leviers-là, si ces deux objectifs-là sont atteints, est-ce que ça ne serait pas au moins l'essentiel que de rassurer?
La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire rassurer aujourd'hui?
Vous avez rassurer le contribuable, par exemple, c'est de lui dire vos dépôts seront garantis et que s'il y a une crise, vous ne perdrez pas d'argent.
Voilà, la réponse est très clairement non. Les dépôts des Français aujourd'hui jusqu'à 100 000 euros sont garantis par les contribuables en réalité, hein, puisque aujourd'hui le fonds de résolution bancaire en France c'est 2 milliards d'euros, comme je disais tout à l'heure, ce qui est très très insuffisant. La loi bancaire Moscovici permettra même d'ailleurs de fusionner ce fonds de résolution bancaire avec le fonds de garantie des dépôts, de sorte qu'on pourra piocher dans l'argent qui est destiné à sauver les dépôts pour solvabiliser une banque ou un hedge fund qui serait en difficulté. Donc la loi bancaire française fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle rend encore plus fragile le sauvetage des dépôts des Français en cas de difficultés bancaires aujourd'hui.
La réforme bancaire française, elle a été adoptée en juillet dernier. Est-ce que vous considérez qu'elle pourrait être incompatible avec l'union bancaire européenne ? Est-ce qu'on va devoir peut-être ajuster le tir par rapport à cette union bancaire ?
Non, la loi bancaire française, de mon point de vue, entre en dialogue, si je puis dire, juridique avec la directive que Michel Barnier propose sur la séparation bancaire. C'est surtout là l'enjeu essentiel. Pour le reste, non. Ce que fait la loi bancaire française, c'est simuler une scission sans séparer les banques. Donc elle se prononce en réalité contre la séparation bancaire, tout en faisant semblant de le faire. Et la supervision bancaire, elle, est à un autre niveau. C'est-à-dire elle se pose la question de savoir... à périmètre légal des banques données, est-ce que les banques vont bien ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à s'en sortir ?
La séparation bancaire, il faut rappeler ce que c'est. Hein. C'est séparer les activités de dépôt des activités d'investissement. La loi française a prévu de séparer ces activités, mais au sein d'une même banque. Vous dites quoi ? Il aurait fallu carrément séparer les banques, refaire une sorte de... Alors c'est le fameux Glass-Steagall Act américain dans les années 30, et en faire un Glass-Steagall Act à la française.
Moi, je suis très favorable à une avancée aussi lointaine que possible en direction du Glass-Steagall Act, même si je suis conscient du fait que c'est techniquement difficile. Ce que je constate simplement, c'est que la loi bancaire est la moins disante de tous les projets de séparation bancaire du monde aujourd'hui.
La loi bancaire française,
vous dites. La loi bancaire française, absolument. D'une certaine manière, elle vise à montrer la ligne rouge au-delà de laquelle elle espère que Michel Barnier n'ira pas. Et donc, elle est extrêmement régressive puisqu'elle bloque le débat européen que nous devrions avoir sur la séparation bancaire.
Voilà le projet de Michel Barnier qui devrait être à l'étude à partir normalement de janvier prochain. Thierry Pech.
Oui, je trouve, on l'a encore extrêmement sévère. D'abord, la séparation de la banque de dépôt et de la banque d'affaires est en théorie une très bonne chose. Mais dans la crise qu'on a vécue, c'est pas ce mélange des genres qui a été à la source des problèmes. La plupart des banques qui ont été en cause n'étaient pas des banques qui... comment dire, picorer dans les deux assiettes et les deux métiers. Au contraire, ce sont des banques qui étaient assez spécialisées. Donc, je ne vois pas bien la pertinence de la référence, même si j'y suis a priori, en théorie, favorable. Et deuxièmement, quant à la loi bancaire française, simuler une scission, c'est tout de même pas rien. C'est très utile. L'affaire des testaments, une loi qui dit aux banquiers, bon, bah, écoutez, maintenant, vous allez mettre sous scellé, d'une certaine manière, le plan d'incendie, un peu comme pour les pompiers, lorsqu'on entre dans un immeuble qui est en feu, bah, il faut savoir comment fonctionne l'immeuble. Bon. Et vous allez nous expliquer comment on va démanteler le molosse, parce que, évidemment, vous nous posez un gros problème d'ordre public économique. Bon, tout ça, c'est pas rien, quand même.
Alors là, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. En fait, bon, pour ce qui est du testament bancaire, le testament bancaire des grandes banques françaises, un des quatre premières, chacun d'eux doit faire quelque chose comme 1000 pages. Lorsque vous avez une banque à sauver, il faut le faire en 48 heures. En vérité, ce qui va se passer, c'est très simple. Vous allez avoir une réunion de 5 personnes, parmi lesquelles siègent le gouverneur de la Banque de France et
Pardon,
le directeur Gérard, général du
vous
Trésor.
Vous avez le temps de le lire avant, le testament bancaire de 1000 pages. Vous
bien sûr que non. Bien sûr que non. En réalité, il ne va pas du tout être utilisé. La décision va être politique. Et elle sera prise en un week-end. C'est un sujet beaucoup trop complexe. Donc, à mon avis, c'est un secret de Polichinelle que le testament bancaire ne sert pas à grand-chose en vérité. Ça, c'est un premier point. La décision va être prise, je vous le dis, en 48 heures, le jour où une banque fait faillite. Vous n'avez absolument pas le temps d'aller chercher dans les détails de la réglementation proposée par la banque elle-même pour se démanteler. Comment on fait pour la démanteler ?
Donc, vous nous dites, pardon, d'expliciter pour les auditeurs, c'est important. Vous nous dites qu'il y a un document de 1000 pages qui va être remis au pouvoir public. Les pouvoirs publics s'assieront dessus, ne liront pas.
Ils n'auront pas le temps de l'étudier en détail.
Et ce n'est pas remis en amont ?
Si, bien sûr que c'est remis en amont. Mais si vous voulez, il va y avoir 5 fonctionnaires qui vont le lire. Mais lorsque la décision sera à prendre en 48 heures, ce n'est pas sur la base de ce document beaucoup trop technique et beaucoup trop complexe que cette décision sera prise. Interrogez n'importe quelle personne qui a participé à un démantèlement de banque, vous verrez ce qu'elle vous répondra sur le sujet.
Il n'y avait pas de testament à l'époque.
Mais peu importe, si, aux États-Unis, par exemple, vous avez un testament qui ne sert à rien du tout. Tout le monde le sait, c'est pas du tout la question. Vous voyez, malheureusement, le problème de ces crises bancaires, c'est que ce sont des crises éclairs qu'il faut résoudre en un week-end. Et donc, vous ne pouvez pas faire une énorme construction extrêmement technique et complexe pour amener une décision qui doit être prise en 48 heures.
C'est donc, sur quelle base vous la prenez, votre décision ?
Vous la prenez sur des critères politiques. Et donc la question, c'est vous donner un pouvoir considérable aux 5 personnes qui vont devoir se prononcer au niveau français, parmi lesquelles le directeur général du Trésor et le gouverneur de la Banque de France, qui ont la majorité parmi les 5. Ils ont 3 voix à eux deux. Bon. Et donc finalement, c'est en réalité, de mon point de vue, la nomination de ces personnalités-là qui joue un rôle crucial dans la manière dont on va essayer de gérer les crises bancaires à l'avenir.
Ça veut dire quoi? La nomination de ces personnalités-là devrait être quoi? Alors là aussi, plus démocratique, comme vous l'évoquiez pour la BCE, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit des gens qui soient absolument légitimes?
Il faut que ce soit des personnes légitimes, compétentes et surtout indépendantes du secteur bancaire.
Mais là, ça veut dire quoi, légitime? Élu?
Non, non, pas forcément élu, pas du tout. Non, non, mais légitime au sens où on peut raisonnablement estimer que leur premier critère ne va pas être d'abord de satisfaire leur propre employeur ou leur futur employeur, mais véritablement de viser l'intérêt général dans la décision qu'ils auront à prendre.
Raison pour laquelle, par exemple, dans les propositions que vous faites, vous souhaitez qu'on interdise le pantouflage entre la haute administration et les banques en disant, ben voilà, ça crée énormément de conflits d'intérêts. C'est encore trop présent aujourd'hui. Absolument. En France. En France, peut-être, et pas seulement.
Oui, pas seulement en France, mais en France, c'est caricatural, hein, si vous voulez. Le point, c'est comment se fait-il que, disons, l'École nationale d'administration soit le premier pourvoyeur aujourd'hui des cadres dirigeants de nos grandes banques. Ce n'est pas du tout sa fonction. Et ça fait une liaison incestueuse entre la haute finance publique et la haute finance privée, où on passe allègrement de l'une à l'autre, sans se poser la question de savoir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre les deux.
Je partage un petit peu, finalement, les réactions de Thierry Pech, c'est-à-dire que c'est extrêmement négatif les réactions que vous pouvez avoir par rapport à tous les projets qui sont mis en place, donc soit l'union bancaire au niveau européen, soit la réforme bancaire française. Mais par exemple, cette... neutralité, cette indépendance, en tout cas cette légitimité, qu'est-ce que vous proposez pour qu'elle puisse exister? Comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui prennent les décisions soient vraiment totalement détachés de considérations ou d'intérêts économiques et financiers?
Par exemple, vous ne nommez pas directeur général du Trésor un ancien banquier. Ça, c'est une première condition sine qua non, vous voyez. Voilà, enfin, je veux dire, c'est un certain nombre de... C'est des règles absolument de bon sens.
Ancien, c'est pas grave, c'est futur qui est grave.
Bah, s'il est ancien, il est capable d'y retourner, etc.
S'il est ancien, il connaît très bien le métier.
Mais oui, c'est toujours la question. C'est, s'il est ancien, est-ce qu'il est dépêché là par sa banque d'origine pour défendre les intérêts de la banque le jour où ça ira mal? C'est ça la question.
Ouais. Bon, on va par exemple avoir une Française qui, le 2 janvier prochain, va devenir présidente du mécanisme de supervision bancaire unique. Hein, donc c'est le mécanisme qui est mis en place par l'Union européenne. Ce sera le gendarme européen des banques. Cette Française s'appelle Danielle Nouy. Est-ce que... Elle trouve grâce à vos yeux. Est-ce que son parcours fait qu'on peut imaginer que quand il s'agira de sanctionner les banques, elle le fera en toute indépendance?
Tout à fait. Danielle Nouy, elle a montré à la direction de l'autorité de contrôle prudentiel, hein, l'ACP, qu'elle était capable de s'engager dans un véritable bras de fer avec le secteur bancaire français. Et on peut espérer qu'elle aura la même détermination au niveau européen. La difficulté, à mon avis, pour Madame Nouy, ce n'est pas sa propre personne, bien au contraire, mais c'est, disons, le cadre institutionnel dans lequel elle va devoir travailler, qui a toutes les déficiences dont on a parlé tout à l'heure. Hein. À savoir que l'union bancaire ne peut pas remplir sa fonction de filet de sauvetage du secteur bancaire européen.
Stéphane Rosès.
Il a été relaté que lors de la réforme française du secteur bancaire, les députés auditionnant les uns les autres ont été finalement surpris de la réaction des banquiers, disant mais finalement tout ça, ça n'a pas beaucoup nous impacté. Alors comment est-ce que vous expliquez le fait que la France soit la moins disante par ce que vous venez de dire à l'instant, ou en tout cas qu'est-ce qui explique, je dirais, la modestie des mesures prises par l'actuel gouvernement?
Ça, c'est une question assez mystérieuse. Il faudra que les historiens se penchent sur cette affaire-là, si vous voulez. Je pense qu'il y a une promesse présidentielle faite aux Bourget, qui était de séparer les banques. Il y a, disons, une rhétorique mise en place pendant la campagne qui visait à dire « la finance est mon ennemi ». Et dans la réalité, il y a toute une série de dispositions législatives qui sont mises en œuvre par Bercy aujourd'hui, qui sont extrêmement favorables au secteur bancaire. Le dernier exemple, c'est l'article 60 du projet de loi de finances 2014 qui vise à empêcher les collectivités locales françaises de porter plainte contre Dexia qui a conduit à la ruine une partie de ces collectivités locales via des actifs toxiques qui aujourd'hui leur font perdre des millions. Alors que le gouvernement français aujourd'hui mette en place discrètement un dispositif législatif qui empêche les collectivités locales de se retourner contre Dexia, c'est quand même véritablement le monde à l'envers.
Vous dites, donc Gaël Giraud, que la réforme bancaire française, hein, donc, qui a été adoptée, je le rappelle, l'été dernier, est celle qui va le moins loin de toutes les réformes bancaires. On peut donc en déduire que, par exemple, la réforme bancaire qui vient d'être adoptée au Royaume-Uni va beaucoup plus loin. Elle prévoit de créer un mur entre les agences de détail et les salles de marché de la City, de faire payer en priorité les actionnaires et les créanciers d'une banque en cas de faillite. Comment est-ce que vous expliqueriez que les Britanniques... était capable d'aller plus loin dans leur réforme bancaire, alors qu'on imaginait plutôt que ce serait peut-être les plus réticents justement dans ce domaine.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que d'une part, le Parlement britannique s'est donné beaucoup plus de temps que le Parlement français pour légiférer sur cette question.
Il y a une commission qui a travaillé pendant 2 ou 3 ans, je crois.
Absolument. Nous, on a travaillé, disons, la commission des finances du Parlement européen a travaillé pendant 2 mois et le Parlement lui-même s'est réuni pendant 48 heures au lendemain du grand débat sur le mariage pour tous. Donc, disons, les débats parlementaires en France ont été extrêmement rapides, menés au pas de charge. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément.
Mais alors, des fois, vous dites ça prend trop de temps, puis des fois, ça n'en prend pas assez.
Non, c'est pas. La question, si vous voulez, c'est est-ce qu'on prend le temps d'organiser un véritable débat public en France pour que les citoyens français puissent s'approprier cette question, comprendre où sont les enjeux et dialoguer avec leurs élus pour que ceux-ci puissent, en connaissance de cause, prendre des décisions. Je ne crois pas du tout que ce soit ce qui s'est passé en France, hein, où le projet de loi de séparation bancaire a été déposé sur la table du Conseil des ministres de mémoire le 18 décembre 2012, très peu de temps avant la trêve de Noël, et il est apparu sur la table des députés au lendemain des 2 mois de débats extrêmement houleux sur le mariage pour tous. De sorte que les députés français n'ont pas eu le temps matériel, l'énergie, la disponibilité pour étudier ce projet de loi bancaire, qui est technique et compliqué pour eux. Ce n'est pas tous des spécialistes du secteur bancaire. Et ils ont eu à se prononcer en 48 heures, ce qui est beaucoup trop court.
Thierry Pêche.
Vous ne croyez pas qu'un autre facteur a pu jouer, qui est très simple, c'est que les faillites bancaires ont coûté beaucoup plus cher à l'État britannique qu'à l'État français. Finalement, le système bancaire français était un peu moins gangréné que le système bancaire britannique.
Oui, c'est le deuxième point que j'allais avancer. La raison pour laquelle les Britanniques vont plus loin, c'est qu'ils savent ce que c'est que d'avoir à payer des milliards pour sauver une banque. Hein. Nous, en fait, nous avons déjà dépensé des milliards pour sauver Dexia. Hein. Dexia a déjà coûté 12 milliards aux contribuables franco-belges. Et la France et la Belgique ont, à elles deux, mis 85 milliards de garanties publiques sur Dexia. Mais en fait, au fond, ça ne nous a pas encore fait suffisamment mal pour qu'il y ait une pression de l'opinion publique de manière qu'on légifère sérieusement sur les banques. Hein. Autre exemple, hein, la Société Générale aurait perdu 12 milliards si le contribuable américain n'avait pas renfloué AIG fin 2008. Et donc finalement, c'est le contribuable américain qui a payé pour nous. De sorte que, c'est vrai, jusqu'à présent, nous sommes plutôt épargnés. Le contribuable français a été plutôt épargné par les bêtises de son secteur bancaire.
Alors peut-être justement s'interroger sur les raisons qui font que le secteur bancaire français a plutôt été épargné. Est-ce que ça ne valide pas le modèle de la banque universelle à la française ?
Aucunement. C'est-à-dire là, je reviens sur l'objection de Thierry Pêche tout à l'heure. Hein. Si vous voulez, la question c'est, vous dites... ça n'est pas nécessaire de mettre une ceinture de sécurité parce que ce n'est pas le fait de ne pas en avoir qui provoque l'accident. À mon avis, c'est ça la question. Le fait d'avoir une ceinture de sécurité n'empêche pas d'avoir un accident, mais ça limite la case de l'accident. Quand vous avez une banque mixte, qui mélange à la fois les activités de marché et les activités de dépôt, les pertes qui sont enregistrées par le secteur banque de marché se répercutent sur le secteur banque de dépôt. C'est typiquement ce qu'on voit aujourd'hui sur le grand monstre fusionné qui est BPCE Natixis, hein, où les pertes de Natixis ont été reportées sur les caisses de BPCE, au grand dam d'ailleurs de ceux qui étaient responsables de BPCE. Bon. C'est ça la grande difficulté. Ça veut dire que lorsqu'une grosse banque mixte est en difficulté, elle exerce un chantage terrifiant sur le versant dépôt de la banque. C'est pas le fait. Mon point n'est pas du tout de dire si on n'avait pas de banque universelle, elle serait moins exposée à la faillite. Ce qui serait moins exposé à la faillite, c'est la partie dépôt. Mais la partie banque de marché, bien évidemment, si elle continue de faire des bêtises, fera tout autant faillite que si c'est une banque universelle.
Alors, on va continuer à filer la métaphore de la sécurité routière pour justement limiter les risques d'accident. Vous ne proposez pas seulement de limiter la vitesse sur les routes, mais vous proposez également d'interdire l'accès de ces routes à certains acteurs. En particulier, vous dites qu'il faudrait qu'on interdise aux banques le fait de créer de la monnaie. Alors avant d'aller justement sur cette proposition-là, peut-être expliquer d'abord ce qui peut sembler étonnant, c'est-à-dire les banques créent de la monnaie. Moi, j'avais pensé que les banques ne prêtaient que l'argent qu'elles avaient en dépôt. Ce n'est pas forcément aussi simple.
Alors, c'est un vieux débat, si vous voulez, qui a au moins 2 siècles, hein, qui est de savoir qu'est-ce que fait une banque exactement lorsqu'elle accorde un prêt. Donc moi, je rappelle une évidence que connaissent tous les banquiers, mais qui est peu discutée dans le débat public, c'est qu'une banque est un objet qui est complètement différent de, par exemple, un fonds spéculatif, un hedge fund, puisqu'une banque n'est pas un intermédiaire financier qui se contente de reprêter de l'argent qu'elle récupère ailleurs. Une banque est une banque parce qu'elle a reçu une licence bancaire de l'État, qui est une délégation donnée initialement par le roi de frapper monnaie. Et lorsque vous allez voir votre banquier et que vous lui demandez un prêt pour acheter votre appartement, par exemple, une partie de l'argent qu'il vous prête n'existait pas 3 minutes avant que vous ne fussiez entré dans son bureau. Et c'est tout à fait normal. C'est le métier d'un banquier que de créer de la monnaie, hein, et ensuite de se refinancer ex post auprès de la Banque Centrale Européenne. Là, il n'y a rien à dénoncer. Simplement, vous voyez, c'est l'activité.
Alors, si c'est normal, pourquoi est-ce que vous souhaitez que ça ne soit plus possible ?
La question, c'est à partir du moment où on constate que le secteur bancaire utilise très mal ce pouvoir énorme de création monétaire, il faut restituer au pouvoir public le contrôle de cette création monétaire. Et ça nous renvoie au débat qu'il y a eu déjà dans les années 30, hein, avec ce qu'on appelle le plan de Chicago, et des économistes américains comme Irving Fisher, qui, constatant les dégâts monstrueux provoqués par la crise bancaire, enfin la crise financière de 1929, se disent, au fond, il faut une position très radicale qui est de redonner à l'État le contrôle effectif du pouvoir de création monétaire qui a été délégué aux banques.
Donc l'État ou en tout cas la structure transnationale, en l'occurrence pour l'Europe, ça serait la Banque Centrale Européenne.
Alors, ce serait la Banque Centrale Européenne si celle-ci était réinsérée dans une institution européenne avec un véritable pilier politique démocratique.
Est-ce que c'est le rôle que joue aujourd'hui la Réserve fédérale américaine, dont je rappelle, parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'elle fête précisément justement ce 23 décembre 2013 son 100e anniversaire. Est-ce que les Américains, eux, fonctionnent de manière un peu différente par rapport à leur banque centrale?
De fait, les Américains ne fonctionnent pas comme nous. La Fed, en un sens, est moins indépendante à l'égard du politique que ne l'est la Banque centrale européenne à l'égard du politique européen, tout simplement parce que la Fed a en face d'elle une véritable structure politique. Elle a un interlocuteur politique, qui est la Maison-Blanche. La BCE n'a pas l'équivalent de la Maison-Blanche au niveau européen, et c'est bien ça le drame de l'Europe aujourd'hui, à mon avis. Cela dit, le plan de Chicago de Fisher n'a pas été mis en place. Hein, et aujourd'hui, les banques américaines ont également le pouvoir de création monétaire qui n'a pas été restitué au pouvoir public.
Stéphane Rosès.
Oui, non, mais dans le prolongement de ce que vous dites, effectivement, les accords de Maastricht stipulent précisément que, justement, la spécificité du fait qu'il s'agisse d'une monnaie unique, c'est que cette banque centrale doit être absolument indépendante de l'autorité politique. Alors, je voudrais justement basculer dans un endroit qui est la France, où, effectivement, l'imbrication est évidemment claire entre l'État, la nation, le secteur bancaire. À vous écouter, par exemple, je pense que vous disiez sur la réforme bancaire française. Il aurait fallu, dites-vous, que les parlementaires aient eu plus de temps et tout ça. Bon, alors, évidemment, les parlementaires sont dépourvus institutionnellement et sans doute dans la façon de faire les choses. Est-ce la question de Bercy qui est une question très très importante et justement la capacité du politique à peser sur les choix de Bercy. Si on prend par exemple un débat actuel qui est la mise à plat fiscale et la réforme fiscale, on imagine l'importance, n'est-ce pas, de Bercy dans les décisions qui sont prises ou pas prises, ou quand elles sont prises, je dirais, de l'étiage des décisions prises. Quelle est votre analyse justement sur l'articulation entre Bercy, le politique, que ce soit l'exécutif, le législatif, et puis le secteur que vous connaissez, qui est le secteur financier.
Bercy, d'entendre qu'il est mué par une force d'inertie extrêmement importante, hein, Gaël Giraud.
Alors, d'abord, je crois qu'il faut arrêter de fantasmer sur Bercy. Bercy n'est pas homogène.
Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous.
D'accord. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui travaillent à Bercy qui font un travail remarquable, donc je le dis tout de suite pour ceux qui écoutent. Il reste que, de fait, le constat qu'on peut faire après cette année et demie de travail de l'actuel gouvernement, c'est qu'une partie, disons, de la haute administration publique qui travaille à Bercy n'est pas très enthousiaste à l'égard de la mise en œuvre effective des promesses du candidat Hollande. Et donc, d'une certaine manière, siphonne tout le travail législatif du gouvernement de manière que ces promesses ne puissent pas être mises en œuvre. Deux exemples. Évidemment, l'exemple paradigmatique, c'est la loi bancaire, hein, qui fait semblant de scinder les banques alors qu'elles ne scindent pas. L'autre exemple, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI, qui avait été promise par le président Hollande, qui a été créée, mais dont les statuts ont été rédigés en partie par Bercy, de manière qu'elle ne puisse pas se refinancer auprès de la Banque centrale européenne, et donc en réalité qu'elle ne puisse pas véritablement exercer sa vocation de banque. Aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que une partie de l'administration de Bercy est convaincue que redonner le pouvoir de création monétaire à la puissance publique, ça c'est le péché originel.
Une administration réticente par rapport aux promesses de changement, vous m'offrez une transition absolument acrobatique, Gaël Giraud, pour évoquer les intentions politiques d'un autre François, le pape. Je rappelle que vous êtes jésuite. Le pape, personnalité de l'année 2013, selon le magazine Time. Alors, ça s'est joué à pas grand-chose avec Edward Snowden. Est-ce que vous iriez-vous jusqu'à dire que le pape François pourrait également être désigné économiste de l'année, puisqu'il a beaucoup parlé, il est beaucoup intervenu sur les questions économiques ?
Alors, il est intervenu massivement sur les questions économiques. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un économiste, hein, ce n'est pas du tout son métier. Simplement, c'est un pasteur qui redit de manière très forte des vérités qui font partie de la tradition et de l'évangile depuis des siècles. Hein.
Ah, c'est pas un économiste. Alors, il remet par exemple en cause la théorie du ruissellement. Alors, ce n'est pas le premier, hein, cela dit, à la remettre en cause. La théorie du ruissellement, c'est le fait de dire que la richesse qui est créée en gros va forcément finir par profiter à l'ensemble de la société. Je parle sous le contrôle de Thierry Pêche. Ça lui a valu d'être accusé, puisque c'est une accusation en tout cas aux États-Unis, de marxisme. Le oui, pape est-il marxiste ?
Évidemment non, donc c'est un non-sens, c'est simplement une réaction épidermique de la part de certains milieux ultra-conservateurs aux États-Unis qui ne supportent pas que l'autorité pontificale puisse gêner leurs propres intérêts privés. Voilà. Mais vous voyez, l'Église n'est pas au service des intérêts privés des conservateurs américains, et c'est heureux parce qu'ils ne sont pas le peuple messianique de l'Évangile. Le peuple messianique de l'Évangile, ce sont les pauvres. Et c'est ça que rappelle avec beaucoup de force François.
Thierry Pêche.
Est-ce qu'il ne vous paraît pas plus franciscain que jésuite à cet égard ?
Ce n'est pas une véritable question. Si vous voulez, il y a une forte unité de l'Évangile, et c'est ça que rappelle François. Il est jésuite, et il a pris le nom de François pour rappeler que dans l'Église, la question de l'attention à la fois à la création, ça c'est une caractéristique de François d'Assise, hein, et l'attention aux plus pauvres, ça n'est pas une option facultative. Ça fait partie de l'expérience chrétienne.
Stéphane Rajas.
L'Église est sans doute la dernière internationale et elle date pas évidemment d'aujourd'hui. Donc quand François arrive et que Place Saint-Pierre de Rome, non seulement il dit « je viens de loin », mais il semble envoyer un appel aux catholiques assemblés pour leur dire « aidez-moi à faire bouger le Vatican », tel qu'on peut analyser hein, le propos qui a été dit. Cette internationale qu'est l'Église, comment réagit-elle au pape François ? Et deuxième question, est-ce qu'il y a, quel type de concordance y a-t-il entre l'attitude pastorale d'ouverture ou de fermeture au monde pour faire passer le message et les questions justement économiques, préférences pour les pauvres ?
Alors en fait, si vous voulez, François est quelqu'un qui a une grande expérience pastorale, peut-être à la différence du pape précédent, hein, qui était un intellectuel universitaire avec finalement peu d'expérience de pasteur. Bon. Et François est très touché par la question de l'exclusion, et c'est ça qui remet au cœur de sa parole publique. C'est-à-dire, il dit, voilà, la manière dont nous avons organisé nos institutions économiques et politiques aujourd'hui génère de l'exclusion, et c'est ce à quoi moi, comme pape, dit-il, je ne peux pas me résoudre. Voilà. Et il appelle, disons, à un sursaut de conscience de la part des chrétiens et de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté pour qu'on change les règles du jeu de sorte que les exclus soient réinsérés, réintégrés au cœur du dispositif social. Je crois que c'est ça. Alors évidemment, ça l'invite à prendre des positions économiques qui, disons, déplaisent à certains milieux ultra-conservateurs dont je parlais tout à l'heure. Mais son propos n'est pas d'abord d'instituer une nouvelle doctrine économique, ce n'est pas son lieu, hein.
Il y a un de vos compagnons de route, Henri Madelin, jésuite donc lui aussi, qui dans le journal du dimanche hier, alors essayait de définir ce que pouvait être la posture politique du pape François, pas marxiste donc, il dit il est plutôt péroniste, tendance sociale de gauche. Est-ce que c'est une définition qui vous semble convenir ?
Moi je crois qu'il est surtout fidèle à l'évangile. Je donnerai un exemple, c'est la grande encyclique Quadragesimo Anno de 1931, qui est publié par le pape Pie XI, qui contient des pages d'anthologie sur la dictature des marchés financiers, dont on pourrait croire qu'elles ont été écrites hier matin, qui n'ont pas pris une seule ride et qui appartiennent à la grande tradition de l'Église. C'est-à-dire, relisez, si vous avez une Bible sous la main, relisez l'épître de Saint-Jacques. Elle est absolument très très forte et sans ambiguïté sur, la contre-vérité qu'est cette fameuse théorie du ruissellement qui veut que plus les riches sont riches, plus les pauvres sont heureux.
Bon, donc on peut avoir le capital dans une main et la Bible dans l'autre. Thierry Pêche.
Oui, moi je suis laïque, je ne suis pas investi dans l'Église, mais je vois avec beaucoup de sympathie l'arrivée de ce pape qui fait que l'Église revient dans le monde et revient dire au monde les excès de matérialisme, etc., qui ont pu marquer la période précédente. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi, c'est d'arriver à comprendre pourquoi l'Église s'était éloignée de ces sujets pendant si longtemps. Comment vous expliquez ce silence de l'Église sur... sur ces questions. Vous avez très justement dit que ça participait, je dirais, de l'ADN du message évangélique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne dirais pas que l'Église est restée éloignée de ces sujets, hein, parce que sur le terrain, il y a des chrétiens, avec d'autres d'ailleurs, qui font un travail magnifique auprès des exclus et des plus pauvres, en France par exemple, hein, sur la question du logement social. Bon.
C'est peut-être la hiérarchie alors qui s'en est éloignée.
Alors, la hiérarchie, en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est, une certaine crainte sous le pontificat de Jean-Paul II, que la prise de parole publique sur les questions sociales puisse être récupérée dans un sens qui soit favorable au régime communiste. Jean-Paul II était très très marqué par son expérience dictatoriale en Pologne, et très attaché à surtout ne pas prêter le flanc à toute tentative de récupération de la part du bloc d'Europe de l'Est. Alors ça a pu générer auprès de la hiérarchie ecclésiale une très très grande prudence. Aujourd'hui, le pape François a un ton différent parce qu'il sait très bien que ce n'est plus l'enjeu aujourd'hui.
Le pape François, qui dans son exhortation apostolique en novembre dernier, disait notamment ceci, cette exhortation qui lui a donc valu de devoir répondre à la presse italienne sur ses accusations, entre guillemets, de marxiste. « Nous avons créé de nouvelles idoles, dit-il. L'adoration de l'antique Vaudor a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent. » Il se trouve que le dernier chapitre de votre livre s'intitule, Gaël Giraud, « Nous libérer du Vaudor ». Je me demandais tout simplement si le pape avait lu votre livre.
Mais je n'en sais rien, mais de fait, c'est exactement le même vocabulaire, tout simplement parce que c'est le vocabulaire de la Bible. C'est le vocabulaire prophétique. L'expérience de foi chrétienne passe par une sortie de l'hypnose vis-à-vis des idoles, de nos idoles sociales. Et mon point de vue, c'est que la génération des années, qui arrive à l'âge adulte dans les années 70 a accompli en réalité la reconstruction européenne. Celle-ci est faite. Et elle n'a pas de grande utopie de rechange parce qu'elle n'est plus prête à endosser les grandes utopies du 18e naïvement. Puisqu'elle sait que la rationalité et le progrès technique peuvent conduire également au goulag et à Hiroshima, Nagasaki et aux camps de concentration. Du coup, finalement, elle est dans une espèce de panne eschatologique. Et c'est là que s'engouffre, disons, la possibilité d'une idole, comme celle, l'idée complètement folle, selon laquelle on pourrait construire la prospérité d'une société sur les marchés financiers. Qui tient lieu de veau d'or aujourd'hui ? Gurubi, baby, gurubi.
I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay.
Voilà, Fever, la fièvre, version latino, La Loupée. C'est un titre que vous pouvez retrouver sur un coffret Fania, The Greatest Song. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce label de musique, Fania, c'est l'équivalent pour la musique latine de la Motown.